La chronique santé du lundi avec notre pharmacien Martin Bocage. Cette semaine, on revient sur un rapport qui a été publié récemment sur le site de l'Institut national de la santé publique du Québec à l'effet que la bactérie qui cause la gonorrhée résiste de mieux en mieux aux antibiotiques. Salut Martin!
Salut Philippe!
Concrètement, ça veut dire quoi au juste et à quel point cette situation-là est inquiétante?
En fait, ce que ça veut dire, c'est sûr que avant on utilisait, mettons, une monothérapie, donc un traitement pour traiter la gonorrhée, et maintenant on s'aperçoit que un traitement n'est pas suffisant. Il faut combiner en fait des produits. Puis ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle la résistance se développe. Pour vous donner un exemple, en fait, souvent le produit qui est donné, c'est ça se trouve être l'azithromycine, qui fait partie de la famille des macrolides, qu'on donnait 4 comprimés en une dose. C'est ce qu'on faisait, en fait, un peu dans les années 2010, okay, auquel, dans le fond, le taux de résistance était présumé à 1,2%. Okay? Pour faire la chronologie, 2013, 1,7%, 2014, 6,7%, 2015, 12,4%, et 2016, 19%.
Okay? C'est toute une évolution. Donc, en peu de temps, là?
Toute une évolution en peu de temps, évidemment. C'est ça qui est un peu plus inquiétant. Ça justifie maintenant des combinaisons de traitements, des alternatives de traitement. Et on donnait aussi un peu avant, on donnait du ciprofloxacin là, pour traiter cette situation-là. Puis pour un peu faire la même analogie, 2010, là maintenant, 32% des patients qui avaient la gonorrhée avaient une bactérie résistante. Et maintenant, aujourd'hui, en 2016, en fait, les données qu'on avait, 59%. Donc, évidemment, on ne donne plus cet antibiotique-là pour cette situation-là, à moins qu'on ait un test positif vraiment qui mentionne que c'est sensible. Et juste pour donner une idée, en fait, quand on donne une antibiothérapie, peu importe que ce soit pour cette situation-là ou pour d'autres, quand ça commence à dépasser le 20%, ça commence à être plus dans les choix de traitement. Parce que trop de chances.
On commence à le discarter un peu, là.
Oui, exactement, ouais. Exactement. Donc là, en 2016, 19%, on s'entend qu'aujourd'hui, 2018-2019, les données doivent être encore plus élevées. Donc, c'est un petit peu ça. En fait, la vitesse qui fait en sorte, la vitesse de résistance qui fait que ça nous surprend, évidemment.
Bon. Tu as parlé d'alternatives. Donc, il y a d'autres antibiotiques pour traiter la gonorrhée, Martin?
Oui, oui. Ce qui s'est véhiculé dans les derniers guides de traitement, en fait, on regarde de un, est-ce que la personne, par quelle façon elle a attrapé ou à quel endroit la gonorrhée a été contaminée. Puis on regarde aussi s'il y a présence de chlamydia. Chlamydia, en fait, c'est comme une maladisseur de la gonorrhée. Souvent, quand il y a gonorrhée, il y a présence de chlamydia. Puis des fois, quand la chlamydia est présente de gonorrhée aussi. Donc, on regarde si la personne, de quelle façon a été contaminée, est-ce qu'il y a présence des deux. Et là, ça va influencer le choix de traitement dans le sens où on pourrait donner à ce moment-là du Suprax. Donc, il appelle ça une céphalosporine de troisième génération. Et on va donner aussi de la doxycycline dépendamment de la situation. Donc, il y a d'autres choix pour compléter, en fait, le traitement. Actuellement aussi, la possibilité de donner en injection du Ceftriaxone, qui fait partie des autres choix de traitement aussi par rapport à ça. La gentamicine, qui est plus compliquée vraiment à donner, qui se fait souvent en soins hospitaliers, pour les quelques résistances qui étaient notées aussi par rapport à ça. Donc, fait partie, il y a quand même d'autres choix. Évidemment, il n'y a pas de nouveau traitement antibiotique qui a été sorti par rapport à ça actuellement. Donc, c'est là qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour aider à cette situation.
On est peut-être rendu là, Martin, à développer de nouveaux traitements, étant donné qu'il y a de plus en plus de résistances aux traitements qui existent?
Oui. Ce qu'il faut dire là-dedans, la recherche prend tout un certain temps. Ça fait quelques capsules que l'on fait par rapport à ça, puis combien de temps ça prend à développer.
Oui.
Donc, c'est quand même relativement long. On parle de 5 à 10 ans facilement avant d'avoir quelque chose. Puis là, on voit une bactérie qui, en peu d'années, en fait, a développé une résistance. Donc, il y a quand même d'autres choix. Il faut s'entendre quand on regarde les choix, dans le fond, qu'on a à l'hôpital pour traiter cette situation-là. Bon, on parle tout le temps d'une infection à MTS qu'on doit traiter par voie orale plutôt que par injection, évidemment.
Donc, exact.
Ça soit plus simple. On ne peut pas envoyer tous les gens avec une infection à gonorrhée à l'hôpital pour un traitement. Fait que c'est aussi ça aussi qui est à regarder. Donc, pas juste le traitement en tant que tel, mais également la facilité à l'obtenir.
Bon, pas besoin de faire un dessin pour que les gens comprennent que la gonorrhée, c'est pas tellement agréable comme infection, comme maladie. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est la prévention. Est-ce que les condoms sont suffisants, Martin?
Les condoms, dans le fond, protègent beaucoup. C'est la meilleure façon qu'on a pour se protéger, évidemment, lors des relations. Mais on s'entend aujourd'hui avec les mœurs, ce que l'on a, c'est pas juste la seule façon. Donc, on parlait tantôt de façon de contaminer. On peut aussi le contaminer par voie orale, de par les mœurs d'aujourd'hui, et c'est surtout là, dans le fond, que l'on n'a pas de prévention vraiment dans cette situation-là. Donc, on se met dans une situation où une personne est contaminée et a une relation, en fait, orale avec la personne contaminée qui ne sait pas qui l'est, mais évidemment, se contamine et contamine d'autres personnes aussi en même temps. OK? Donc
c'est pour ça qu'il y a eu comme une explosion, là. Ce sont des maladies, sans dire qu'ils n'existaient presque plus, là, mais il y en avait beaucoup moins à une certaine époque. Quand il y a eu beaucoup de prévention autour du sida et tout ça, on a eu une baisse par la suite, mais là, il y a une remontée quand même assez spectaculaire.
Oui, exactement. Mais les gens, je pense, ont confiance en pensant qu'on va utiliser quelque chose pour traiter cette situation-là. Puis, je regardais, en fait, quand que j'ai vu l'article, là, je regardais où on en est rendu, en fait, avec la prévention, avec le condom. Est-ce que combien de personnes, en fait, l'utilisent? Et quelles tranches d'âge sont les plus à risque de ne pas utiliser? Dans le temps, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que à peu près une personne, un petit peu plus qu'un garçon sur deux va l'utiliser et un peu moins qu'une femme sur deux va utiliser le condom pour prévenir contre les maladies transmises sexuellement. Donc, c'est quand même relativement faible.
C'est pas une grosse moyenne.
Ouais. Non, c'est pas une très grosse moyenne dans le fond là-dedans. Puis c'est de là qu'on dit, ben évidemment, le but, c'est de pas l'obtenir, pas obtenir dans le fond la maladie. Donc, la seule façon de le faire, c'est celle-là. Puis aussi de faire attention en fait au niveau du contact oral aussi pour réduire les risques de transmission. L'autre chose que je regardais, puis ce que je me demandais, j'ai dit, est-ce que les personnes font plus de tests de vérification qu'auparavant, parce que c'est plus accessible maintenant? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne qui, après avoir une relation, mettons, d'un certain temps avec une autre personne, rencontre un autre partenaire, est-ce que cette personne-là, en fait, va faire des tests de vérification pour dire à son partenaire, ben voici, je ne suis pas contaminé? Parce qu'on s'entend, c'est pas toujours des symptômes qui sont évidents ou la personne ne peut pas nécessairement toujours obtenir des symptômes. Donc, des fois, ça vaut la peine de faire un test préventif, de dire, oui, est-ce qu'on est porteur, dans le fond, de la maladie, puis est-ce que je vais contaminer, dans le fond, mon prochain partenaire.
Donc, ce que tu dis, c'est que souvent, on l'a, la maladie, mais on ne le sait pas.
Il pourrait être possible qu'on ait on soit sans symptômes et qu'on soit porteur et que là, qu'on contamine.
Évidemment. Okay?
Donc, mais il y a très peu de gens, en fait, qui vont faire le test aussi pour vérifier. On a identifié peut-être 15-20% de gens qui ont cette habitude-là de faire des tests avant d'aller avec un autre partenaire. Donc, c'est quand même très peu. Ce qui veut dire que ça laisse pleine place, en fait, à la maladie de se développer et de contaminer, dans le fond, les gens qui ont des relations, évidemment.
Idéalement, quand on a une nouvelle relation, là, un peu plus stable, si les deux partenaires font les tests, ben en tout cas, ça met les chances de notre côté. Là, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une relation. Mais
puis encore aujourd'hui, malgré tout, malgré le fait que toute la publicité qui est faite, toute l'éducation qui est faite, encore beaucoup en fait, de jeunes adultes en fait, vont avoir des relations non protégées encore à l'heure actuelle. Donc, malgré le fait qu'ils ne savent pas si le partenaire peut être contaminé ou pas, ont des relations sans protection. Donc, quand même, un fort pourcentage de personnes, je dirais, il me semble que si je me fais savoir, elle est bonne, 35 à 40 vont avoir des relations sans protection. Quand même
si c'est beaucoup moins tabou qu'avant, même si les condoms sont distribués un peu partout, notamment dans les écoles, malheureusement, le pourcentage n'est pas tellement élevé.
Oui, exact.
Bon, tu avais une petite question quiz pour nous aussi, Martin?
Oui, certainement. J'avais une question quiz, comme on a fait la semaine passée. En fait, on va faire tirer un autre certificat cadeau de 200$. Cette fois-ci, à la succursale du 914 Boulevard Maloney-Est. En fait, je voulais savoir, surtout dans tes connaissances générales, peux-tu me dire si la maladie de gonorrhée, est-ce qu'elle est une maladie à déclaration obligatoire? Et la réponse est plus simple cette semaine, oui ou non?
Ben, je dirais oui.
Oui, parfait. Ben, bonne réponse, LP. En même temps, j'aimerais ajouter là-dessus, maladie à déclaration obligatoire, c'est ce qui fait qu'on en parle peut-être plus. Il y a plusieurs maladies de la sorte, en fait, qu'on déclare. Puis les maladies à déclaration obligatoire sont là pour être répertoriées, pour connaître, en fait, le nombre, pour pouvoir générer des statistiques et et de circonscrire un peu la maladie. Puis en même temps, on déclare aussi toute infection qui pourrait être résistante. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour permettre de savoir où on en est rendu. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on en est rendu aux alentours de 20 % de résistance au célèbre traitement Zitromax en question. Donc, c'est pour ça que la gonorrhée ainsi que d'autres maladies faites sont à déclaration obligatoire maintenant.
Alors, on va faire le tirage dans un instant pour 200 $. C'est pas pour 200 $ de condom, évidemment. C'est en soins de beauté dans ta pharmacie du boulevard Maloney.
Exact.
Merci beaucoup, Martin.
Merci de la précision.
Bonne soirée. À la semaine prochaine.
Au revoir.